en direct du Salon de l'Agriculture.
Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente.
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Bonjour Gaspard, bonjour à tous et bienvenue bonjour dans Natacha. Vos animaux. C'est tout naturellement dans la plus grande ferme de France que notre émission a pris ses quartiers cette semaine. Bonjour les amis.
Bonjour Natacha.
C'est comme ça que mon invité démarre toutes ses vidéos. Bonjour Tanguy.
Bonjour Natacha.
Et oui, j'ai le plaisir de recevoir cette semaine le youtubeur préféré des amis des animaux. Et puis, salon de l'agriculture oblige, on va mettre à l'honneur une race de vaches qui a bien failli disparaître. Elle s'appelle la béarnaise. Vous verrez qu'au Salon international de l'agriculture, il n'y a pas que des animaux de ferme. Les animaux de compagnie ont également un hall dédié. C'est d'ailleurs le deuxième hall le plus visité du salon. C'est là que nous nous sommes installés sur le stand de notre partenaire Animalis. Le PDG d'Animalis viendra nous expliquer les dernières tendances de ce marché qui ne connaît pas la crise. Merci d'écouter vos animaux. Tout de suite, on démarre avec le journal de la semaine et Gaspard.
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Bonne nouvelle pour nos amis les animaux. Un décret publié hier au journal officiel affirme qu'un animal poursuivi par un équipage de chasse à cour jusqu'à dans une zone habitée ou commerciale sera désormais gracié. À l'automne 2017, un incident survenu dans l'Oise avait choqué bon nombre de personnes. Des chasseurs avaient abattu un cerf qui avait trouver refuge dans le jardin de particuliers. Suite à cet incident et à la nouvelle offensive d'ONG et de députés contre la chasse à cour, la Fédération nationale des chasseurs s'était engagée à changer les pratiques. Des engagements traduits donc hier dans cet arrêté ministériel. La pollution sonore des bateaux bouleverse la vie des animaux marins. L'impact de l'activité humaine sur les océans est multiple. Pollution plastique, surpêche et dont une dont on entend beaucoup moins parler, la pollution sonore causée par les bateaux mais invisible. Cette forme de pollution méconnue du grand public s'avère tout aussi importante et dramatique pour la vie sous-marine. Les bruits sourds qu'ils émettent se propagent l'eau 4 fois plus vite que dans l'air, ce qui dérange fortement tous les animaux qui sont dans le fond de l'eau, autant que les autres pollutions. Et pourtant, aucune loi n'est là pour empêcher cela.
Sud Radio, vos animaux et vous.
Bonjour Tanguy.
Rebonjour Natacha.
Rebonjour. Alors Tanguy, vous êtes le youtubeur préféré des amis des animaux. Je le disais, vous avez créé une chaîne YouTube qui cartonne. Ça s'appelle Toupette.
Exactement.
C'est quoi votre histoire? Comment ça a démarré tout ça?
Alors, j'ai toujours été à fond dans les animaux. C'est-à-dire que depuis toujours, j'ai toujours été très très passionné par les animaux, que ce soit les animaux de compagnie, mais aussi les animaux sauvages. J'ai toujours été à fond depuis ma tendre enfance. Je n'ai pas de souvenir qui n'est pas un souvenir animalier. Et ça a commencé avec 2 tortues de Floride à l'époque, sur un marché, dans le 92. J'avais 5 ans. Voilà, 2 tortues ont débarqué à la maison et cette passion ne m'a plus jamais quitté. Depuis, j'ai toujours été à fond de chez fond dans les animaux et encore aujourd'hui. Voilà.
Et alors, pourquoi créer une chaîne YouTube hein?
Alors, pour transmettre...
Parce qu'on peut être à fond dans les animaux sans forcément...
C'est vrai.
Devenir le numéro 1 de YouTube en matière d'animal de compagnie et d'animaux exotiques.
En fait, c'est vrai. Alors en fait, ça faisait des années que la plupart de mes amis me poussaient à créer une chaîne YouTube en disant « Mais transmets ta passion, t'arrêtes pas de nous en parler, ça nous captive. » Même des gens qui n'étaient pas passionnés à la base d'animaux aimaient bien m'écouter parler d'animaux. Donc un jour, je me suis motivé, je me suis dit « On va essayer, on va faire un petit tuto poisson rouge. » Parce que je suis parti du principe qu'un des animaux qui est le plus facile et difficile à élever à la maison, c'est le poisson rouge.
Et le plus présent aussi
voilà.
Dans les foyers français.
Et souvent, c'est un animal qui ne demande rien, qui débarque dans le foyer et qui finit dans un saladier. Et ça, c'est mal. Donc j'avais envie de donner des conseils pour comment bien accueillir son poisson rouge. Donc on a fait un petit tuto avec mes amis, parce que j'avais la chance de travailler dans l'audiovisuel. Et ce tuto, on l'a mis sur YouTube. Et ça a marché dès le début. C'est-à-dire que dès le début, j'ai eu des retours un peu positifs, j'ai eu pas mal d'encouragement pour refaire d'autres tutos autour d'autres animaux. Donc on a commencé tout doux comme ça il y a 3 ans. Et depuis 2 ans, je me suis mis à fond sur ma chaîne. Et aujourd'hui, je sors une vidéo par semaine et ça marche plutôt bien. J'ai pas à me plaindre, c'est sûr.
Plutôt bien, c'est combien
ça dépend,
de visiteurs,
alors,
de vues?
C'est très variable, mais on va dire que sur un thème qui plaît, genre les nouveaux animaux de compagnie, tout ce qui est poissons, reptiles, ça plaît beaucoup sur YouTube. On va dire que je vais faire entre 50 et 100 000 vues les 2 premiers jours. Et après, en fonction du temps, les vidéos continuent de grimper. J'ai des vidéos qui sont bientôt à 1 million, presque 1 million de vues. Donc ça marche plutôt bien. Mais le démarrage est toujours costaud. Mes abonnés sont très contents de voir mes vidéos. Donc les démarrages, les premières heures sont toujours assez impressionnants. Je me dis, ah oui, vous étiez au taquet, vous la vouliez cette vidéo, quoi. Donc ça fait très plaisir.
On sent que tu as vraiment un ton particulier, beaucoup d'humour aussi dans tes vidéos. T'es comme ça dans la vie, c'est naturel?
Alors pas du tout. Dans la vie, je suis chiant. Non, je
c'est
suis...
ce je suis
naturellement comme ça, je suis très dynamique, je suis hyper actif, hein, on peut le dire, hein. Et c'est vrai que...
Tu sais que ça se soigne, on peut t'envoyer un éducateur canin, hein, pour l'hyperactivité.
Ah, pas mal, mais il va me faire quoi? Il va me faire de l'hypnose, il y a plein de trucs, hein, on va proposer ça. Plein de trucs différents. Mais c'est vrai que j'adore transmettre et j'adore partager. Ça, j'adore partager et je suis hyper curieux. Donc c'est vrai qu'entre passionnés d'animaux, j'aime leur faire des nouvelles vidéos, mais j'aime aussi beaucoup aller rencontrer de nouveaux passionnés, des gens qui élèvent des bestioles pas possibles. Voilà, je vis animaux, je dors animaux.
Comment tu trouves tes sujets? Parce que vraiment, tes sujets sont extrêmement variés, des choses assez inattendues. Je t'ai vu hier pour préparer l'émission, j'ai regardé, tu étais au milieu d'un élevage de raies, là, tu étais au milieu de bassins, assez original.
C'est plutôt facile en fait, c'est-à-dire que... Il y a un milliard de choses à faire et il y a surtout un milliard de choses qui n'ont pas été faites. Donc en fait, je cherche des sujets pour traiter soit sous un angle qui n'a pas été fait, genre le tuto d'animaux, c'était pas un truc qui était très populaire avant que je l'amène sur YouTube. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, faire des tutos sur vraiment comment expliquer, comment s'occuper d'un animal de compagnie, ça, bon bah, en fonction du nombre d'animaux de compagnie qu'il y a, il y a matière à tuto derrière. Donc ça, le stock est sans limite. Et après, j'aime bien aller me balader et rencontrer des passionnés. Et là, ça peut être, comme tu l'as vu, un éleveur de raies en Thaïlande qui produit des raies incroyables, des raies d'eau douce. Mais ça peut être aller dans des zoos, ça peut être aller rencontrer des gens qui sont dans la protection animale aussi. Ça, j'aime beaucoup. J'ai la chance de passer une partie de ma vie en Thaïlande et je suis très investi en Thaïlande sur la protection, par exemple, des chiens des rues, où je m'investis vachement là-dedans aussi là-bas. Donc en fait, mes sujets, c'est en fonction de mes coups de cœur, de mes affinités, mais aussi des propositions qu'on me fait, où parfois je reçois un mail de quelqu'un qui me dit voilà, j'ai tel élevage ou j'ai tels animaux, est-ce que ça te dirait qu'on en parle? Si l'affinité passe, c'est parti, aucun problème, avec plaisir.
Alors, puisque tu es là, on en profite pour essayer de comprendre un petit peu les coulisses de la fabrication de ta chaîne YouTube. Ouais. Tu nous disais que tu sortais une vidéo par semaine, ça commence à être vraiment un rythme professionnel.
Ouais.
Comment tu fais pour d'abord fabriquer ces vidéos? Tu es tout seul? Tu as une équipe autour de toi?
J'ai une équipe. Tout seul, ce serait un peu compliqué. J'ai une équipe. J'ai deux personnes principalement dans mon équipe. J'ai une personne, donc j'ai Quentin qui est mon stagiaire qui va m'aider à fabriquer les émissions. Donc il ne s'occupe pas trop de l'édito, mais il va s'occuper vraiment de la fabrication, donc de la réalisation avec la caméra, de la lumière, de la logistique des tournages, de tout ça. Donc Quentin, il est avec moi depuis maintenant un an. Il a une chaîne YouTube aussi. Donc comme il est YouTuber, il connaît bien le game, j'ai envie de dire, et le système, comment ça marche. Donc c'est vraiment très agréable d'avoir un stagiaire qui est déjà bien là-dedans. Et je travaille aussi avec une autre personne qui s'appelle Nawel et avec qui on cherche toutes les collaborations avec les marques, les partenariats, tout ce qui va être aussi plus l'administratif, parce qu'évidemment derrière une chaîne YouTube il y a une société. Donc
parce que en fait au départ ça démarre un peu tout seul dans ton canapé et puis à un moment donné ça devient professionnel.
Exactement.
C'est un vrai job.
C'est exactement ça. C'est après on vient nous voir, on nous propose des collaborations, on nous propose des placements de produits, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'au début on se dit mais comment on fait? Et en fait derrière tout ça il faut qu'il y ait une entité juridique. Donc on monte une société et cette société, en fait, finalement, la chaîne YouTube va devenir la vitrine de cette société. Et après, on va pouvoir partir dans plein de projets différents, des projets auxquels j'aurais même pas pensé il y a quelques mois, genre là, mon bouquin. Tu me parlais de mon bouquin tout à l'heure. J'ai écrit un bouquin. C'est vrai que quand j'ai commencé YouTube, je pensais jamais qu'un...
Alors, redonne-nous le titre de ton bouquin édité aux éditions
Larousse.
C'est
chez Larousse. Ouais, c'est chez Larousse. C'est un bouquin qui s'appelle 39 animaux faciles à élever chez toi, où j'ai plein de fiches d'élevage différentes. C'est un bouquin qui est inspirationnel. La plupart des gens ont envie d'élever des animaux, en tout cas quand ils ont une sensibilité à ça, ils ont envie d'élever des animaux, mais ils savent souvent pas quoi. Et ben, je leur ai mis 39 choix différents dans le bouquin. Ça va de l'araignée sauteuse aux axolotes, en passant par des poissons combattants. Il y en a vraiment pour tout le monde, tous les budgets et tous les goûts. Et juste pour dire que quand on est venu me chercher pour me dire tiens, ça te dit d'écrire un bouquin, j'aurais jamais pensé quelques mois avant. C'est-à-dire que YouTube, ça ouvre des portes qui sont vraiment très intéressantes et ça va très très vite. Ça va très très vite. C'est-à-dire que j'ai démarré vraiment à fond il y a 2 ans. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être super loin par rapport à il y a 2 ans et j'ai aucune idée d'où je serai dans 2 ans.
Est-ce que tu as appris tout ça finalement en faisant ou tu avais déjà un bagage? T'étais déjà un peu dans ce monde des youtubeurs qui est quand même un monde à part, un monde nouveau aussi, qui est en train de naître et de révolutionner notre approche des médias.
Alors, je connaissais pas grand chose dans le YouTube game, un petit peu comme tout le monde. Je connaissais Cyprien, Norman, tous ces gens qui régissent le YouTube game, j'ai envie de dire. Je connaissais pas vraiment comment ça marchait à la base. Et puis je me suis vite mis dedans, je venais de la télé, de l'audiovisuel, je produisais de la télé depuis 10 ans, donc je connaissais quand même déjà comment fabriquer du contenu, ça je savais le faire. Après, comment bien le diffuser et le mettre en avant sur YouTube, j'ai appris, ça s'apprend et ça va vite. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui c'est un contenu qui est vraiment très sollicité et très demandé par la plupart des gens, parce que c'est un contenu qu'on choisit et qu'on ne subit pas. C'est-à-dire que si vous avez envie d'aller regarder une vidéo d'éducation de chien, et ben à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, 365 jours par an, vous la trouverez sur YouTube, chose qui est compliquée avec la télévision.
Petite pause et on retrouve dans quelques instants, toujours en compagnie de Tanguy, qui va peut-être nous raconter quelques-unes de ses plus belles aventures avec sa chaîne YouTube. À tout de suite. Plaisir.
En direct du Salon de l'Agriculture,
Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, vos animaux et vous.
Vous écoutez vos animaux et nous sommes installés cette semaine sur le Salon international de l'agriculture dans le Hall 7, le hall dédié aux animaux de compagnie. C'est le hall d'ailleurs, le deuxième hall le plus visité du salon après celui de la ferme avec tous les animaux de ferme. Et cette semaine, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à recevoir un invité de marque, Tanguy, le YouTuber. Ben oui, Tanguy, ne rougissez pas.
Merci Natacha, quel honneur. Quel honneur d'être dans ton émission.
Tanguy, alors, on expliquait un petit peu ton parcours, comment tu es arrivé à créer cette chaîne YouTube Toupette. Est-ce que tu peux nous expliquer quelques-unes des aventures qui t'ont le plus marqué dans les rencontres que tu as pu faire, dans les vidéos que tu as fait? Parce qu'on a vu que tu te mets quand même parfois dans des situations un peu compliquées.
Alors, c'est compliqué, mais c'est toujours la passion qui motive, donc ça reste agréable. Il y a 15 jours, j'étais dans des marécages en Thaïlande où j'essayais d'attraper des poissons combattants pour montrer, pour montrer à mes abonnés d'où venait le poisson combattant à la base. C'est vrai que c'était un peu éprouvant, on avait des sangsues, on avait de la chaleur, on avait des bestioles dans le haut, mais c'était super cool. C'est-à-dire que même si parfois c'est difficile, ça reste difficile, dans l'image, mais en vrai c'est pas difficile.
Je m'éclate
complètement et même si parfois je râle un peu dans mes vidéos en me disant mais cette situation est compliquée, je suis hyper content et je m'éclate. J'ai envie de dire qu'un de mes plus beaux souvenirs là comme ça, c'est je pense que c'était l'année dernière où on a été aidé grâce à mes abonnés, une dame en Bangkok qui s'occupe des chiens des rues et qui vit dans vraiment très très modestement dans une maison qui est vraiment très très modeste et qui a 35 chiens à la maison. Et elle a 35 chiens non pas parce qu'elle a un toc et qu'elle ramasse tous les chiens qu'elle peut ramasser.
C'est ça. Voilà, parce que c'est une maladie, voilà, tu sais, hein, ça existe. Nom, c'est un nom, je cherche aussi le nom, mais bon,
je ne sais plus,
ça va nous revenir.
Elle n'a pas du tout cette pathologie. En fait, elle est juste amoureuse des chiens et elle ne peut pas laisser un chien en galère quand elle le voit. Donc ça devient un peu compliqué parce qu'elle en a 35.
Bien sûr.
Mais en fait, j'ai rencontré par une amie, on a été faire une vidéo avec elle, j'ai trouvé vraiment j'étais très ému de par l'amour qu'elle donnait aux animaux, la dévotion qu'elle donnait vraiment à cette cause. Donc on a fait un petit appel aux dons avec mes abonnés, en quelques jours on a récupéré une très belle somme qu'on lui a offerte et ça a été vraiment super cool et ça m'a vraiment touché parce que je la revois de temps en temps et je vois ce qu'elle a fait de l'argent. Elle a racheté un portail pour mieux canaliser les chiens, elle a racheté pas mal de mobilier pour les chiens et tout. Et je me suis dit, c'est vraiment super cool, c'est-à-dire qu'on fait une vidéo, mes abonnés sont touchés par la cause que défend cette dame. Hop, ils font un PayPal, je donne l'argent quelques jours après à cette dame et je me suis dit c'est incroyable comme on peut action-réaction super rapidement.
C'est ça aussi finalement tout l'intérêt de YouTube, c'est cette réactivité totale, ce lien direct avec les gens.
Ouais, on a un vrai lien avec notre communauté, hein, c'est-à-dire que la plupart des gens disent oui, les commentaires, les youtubeurs vous les lisez pas, c'est pas vrai, moi les commentaires je dois en lire 99%, je suis très sensible.
Et tu passes ta vie finalement à gérer tout ça quand même.
Ça prend beaucoup de temps mais en même temps c'est très important, c'est-à-dire que les abonnés c'est grâce à eux qu'on fait des vues. C'est eux qui encouragent à créer des nouveaux formats, qui vont faire des suppositions pour des nouvelles vidéos ou qui vont justement parfois dire ah bah là j'ai pas trop aimé et tout. Donc moi je trouve ça hyper important d'être connecté avec son public et de pouvoir produire ce qu'on aime, mais aussi de faire attention à rester dans ce qu'aime aussi son public. C'est-à-dire que pas faire que quelque chose de son côté et dire si ça leur plaît tant mieux, sinon tant pis. Moi je suis content de partager.
Tu suis un peu la tendance de tes abonnés, t'as envie de leur faire plaisir et de les embarquer avec toi dans tes aventures.
J'ai l'impression de grossir avec eux. C'est-à-dire que j'ai l'impression de, au début, on était quelques dizaines, puis quelques centaines, puis quelques milliers. Maintenant, on est quelques centaines de milliers, puis j'espère un jour, on sera quelques millions. Et c'est vrai que je veux surtout pas les oublier.
T'as combien d'abonnés ?
Aujourd'hui, j'ai 260 000 abonnés. Ça commence à faire pas mal de monde. Alors, dans le YouTube game, entre guillemets, ça peut paraître un petit chiffre, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des communautés en France de gens qui ont plus de 10 millions. Mais dans les animaux, on est bien.
C'est énorme.
On est pas mal.
C'est énorme.
On est pas mal.
T'es le premier d'ailleurs.
Je dois avoir quelques personnes qui ont peut-être un peu plus d'abonnés, mais en chaîne générale, vraiment où on parle de tous les animaux, on est numéro 1. Et ça fait hyper plaisir. Et c'est pour ça que je les remercie tout le temps, parce que je sais que c'est grâce à eux. Et même moi, tous les matins, je n'en reviens pas, en fait. De me dire qu'il y a 260 000 personnes qui me suivent, je n'en reviens pas.
Et alors donc tu nous expliquais cette aventure avec cette dame là qui recueille des chiens. Bon, ça on comprend bien l'émotion que ça peut générer de solliciter ton public et de dire bah les gens sont là, ils répondent présents, donc on sent un véritable attachement. Et à contrario, est-ce que tu as eu des moments vraiment de grande solitude dans tes tournages?
Oui, j'ai eu des moments de grande solitude. Je me suis fait manger le mollet par une tortue alligator il y a quelques mois.
Ça
fait pas du bien, mais heureusement j'avais mon jean et c'est de ma faute. Hein. Je l'ai posé au sol et je suis resté axé sur la caméra en me disant elle va faire sa vie. Bah, elle a fait sa vie, elle est revenue, elle m'a attrapé le mollet. Donc heureusement j'avais mon jean.
Ça a dû faire des vues, non? Tu l'as posté
un peu, c'était au début de ma chaîne. Donc voilà, on a annoncé la tendance. Mais ça, c'était un bon moment de solitude. Qu'est-ce que j'ai eu? Je suis très facilement émerveillable. Donc c'est-à-dire que dès qu'on est en Asie ou qu'on sort un peu de notre, quotidien et qu'on va à la découverte de passionnés qui ont soit des installations incroyables, soit des espèces incroyables, je suis comme un gamin. C'est-à-dire que je peux rester 25 minutes à parler guppies avec un éleveur de guppies en Thaïlande.
Ouais.
Mais c'est vrai que je m'interdis aucun sujet. Je juge pas. C'est-à-dire que j'aime beaucoup aller voir les méthodes d'élevage des autres. Tant que l'animal est bien et qu'on respecte les conditions physiologiques de l'animal et que l'animal s'éclate, je suis pas du tout à dire oui, ça tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. J'aime beaucoup m'inspirer des autres. Donc ma chaîne YouTube, c'est une succession de super souvenirs. C'est-à-dire que là, tu vois, si je cherche, il n'y a jamais un tournage que j'ai trouvé chiant ou contraignant, ou je ne fais pas ça pour les vues ou pour quoi que ce soit. Je le fais parce que l'idée du tournage me plaît. Donc, je sais que quand on va arriver là-bas, on va s'éclater. Qu'on soit dans mon studio ou à l'extérieur, c'est que du kiff.
Tu passes beaucoup de temps en Thaïlande?
Je passe 3 mois par an à peu près en Thaïlande. C'est un pays qui est non seulement magnifique, mais ça, vous le savez déjà, tout le monde le sait, mais c'est un pays où ils sont dingues d'animaux de compagnie. Dingues d'animaux de compagnie. Et ça fait très plaisir quand on aime l'aquariophilie, par exemple. La Thaïlande, c'est la mecque de l'aquariophilie. C'est le numéro 2 exportateur de poissons d'aquarium au monde. Donc oui, c'est le jour et la nuit avec chez nous. Donc c'est vrai qu'en tant que passionné, j'adore, j'y vais depuis que je suis gamin, j'ai beaucoup d'amis là-bas, j'ai une vie à Paris, une vie à Bangkok. Et c'est vrai que...
C'est dur ta vie en fait, hein, tant que...
Ma vie est dure, hein, ma vie est très très dure. Mais viens Natacha, viens,
je
t'invite avec plaisir. Ma vie est plutôt facile et je le sais et j'en ai conscience et je remercie je sais pas qui tous les jours, mais j'ai beaucoup de chance de vivre de ma passion.
Alors on sent que t'as vraiment... une passion folle pour les animaux qu'on peut qualifier d'exotiques.
Bien sûr.
Et puis, de plus en plus, tu fais aussi des choses sur les chiens, les chats, les animaux de compagnie plus proches de nous.
En fait,
alors, tu vas me parler des poissons rouges, mais
non.
Quand je parle animaux de compagnie, je parle des...
Oui, de ce qu'on a plus l'habitude de voir,
voilà.
De plus classique. Alors, déjà, j'ai un chien qui vient de la SPA, j'ai Azote, que j'ai depuis aujourd'hui, ça doit faire 6 ans que je l'ai. Je l'ai adopté, elle en avait entre 5 et 7, on va dire, on ne sait pas trop. Mais évidemment, c'est le meilleur chien du monde. Hein. Désolé
évidemment. Pour
ceux qui veulent adopter un chien, mais j'ai déjà adopté le meilleur. Hein, ça c'est fait. C'est une chienne qui a été trouvée divagante et que j'ai retrouvée au refuge de Gennevilliers un jour. Je suis en amour total avec mon chien évidemment.
Elle doit s'ennuyer quand tu pars en Thaïlande.
Elle va chez ma mère et elle est contente parce qu'elle passe.
Elle est un peu au repos.
Ouais, elle est au repos et elle est au repas aussi. Elle est au repas 7 à 8 fois par jour, je pense, vu le poids qu'elle prend en si peu de temps à chaque fois qu'elle va chez ma mère. Donc elle est hyper contente d'aller chez ma mère à chaque fois. On a fait une organisation où justement elle est pas du tout traumatisée quand je pars ou quoi. Elle est très contente de me retrouver mais de me laisser partir aussi parce qu'elle sait que ça lui fait des vacances.
Et donc les animaux de compagnie chien chat,
alors,
c'est une demande de,
oui,
de
c'est
tes
une demande.
Abonnés
alors
ou...
C'est intéressant parce que c'est une demande de mes abonnés, mais c'est pas ce qui marche le mieux sur ma chaîne. Non, tout ce qui est tuto aquarium reptile marche beaucoup mieux en termes de vues. Par contre c'est très intéressant parce que j'adore faire des tutos sur les chiens, que ce soit des tutos d'éducation mais aussi des tutos de propreté sur les chiots, ce genre de choses. Et je pense qu'en fait c'est important de le mettre sur ma chaîne YouTube parce que ça sert à plein de gens. C'est-à-dire que quand quelqu'un revient à la maison avec son petit chiot et n'a aucune idée de comment va se passer l'éducation, déjà c'est mal, il aurait dû se renseigner avant.
C'est vrai.
Mais s'il regarde mon tuto, on va dire qu'il va prendre un concentré d'infos en un quart d'heure ou au moins il part pas de zéro. Il va se dire, bon, il y a déjà des notions
et
que
tu
je
peux leur dire aussi d'écouter vos animaux sur Sud Radio parce qu'on donne beaucoup
mais
de conseils.
Je vais
pratiques,
à partir de maintenant, je vais même imposer l'écoute de Sud Radio
bravo,
toutes les
bravo.
Semaines, voilà, de façon à pouvoir progresser encore plus dans l'éducation des animaux. Mais je trouve ça très important de former les gens, de leur expliquer et de se rendre compte qu'un animal, c'est super cool, mais il y a des choses à mettre en place, à savoir, de façon à ce que ça se passe super bien pour nous humains, mais aussi super bien pour le chien. Parce que souvent, les gens ont l'impression que éduquer un chien, c'est inné, et alors que ça l'est pas.
Ça l'est pas du tout, non. On
quand
parle
même...
pas le même langage quand
exactement.
Même. Et on attend d'eux des choses qui ne sont pas naturelles.
Exactement.
Pour eux.
Et souvent, parfois, il y a des gens qui vont avoir de la chance d'avoir des chiens qui vont se mettre hop à la place qu'on leur donne et faire tout bien en bon chien sans qu'on ait besoin d'instaurer une éducation. Mais malheureusement, ça se passe pas comme ça, alors que si on instaure plein de petits trucs d'éducation,
tu sais que
ça se passe super bien.
Moi, j'ai un, un client pour toi, pour un prochain tuto sur l'éducation, c'est Gaspard.
Ah, Gaspard.
Oui, Gaspard. Gaspard.
C'est pas pour tout de suite.
Non, mais c'est pas pour Gaspard, c'est pour son chien, je pense.
Oui, voilà,
rassure-moi, rassure-moi, Natacha.
J'ai vendu la mèche. La semaine dernière, j'ai expliqué que Gaspard souhaitait enfin faire l'acquisition d'un chien.
Ah, quelle belle idée.
Pour t'expliquer l'historique, Gaspard, quand il a démarré cette émission avec moi, ne connaissait rien de nos animaux.
D'accord.
Donc forcément, c'est un progrès colossal.
Ok, et aujourd'hui, Gaspard veut franchir le cap et adopter.
Voilà.
Exactement. Super, quelle belle idée. Prends un chien adulte, Gaspard. C'est vrai, tu
oui,
verras.
Oui, parce qu'il y a déjà un enfant à la maison, Gaspard.
Ah,
donc
plus.
Prends un adulte.
Et tu verras que souvent, l'éducation, ça va être plus simple, plus vite, plus beau, plein de
oui,
choses
évidemment.
En plus.
Bon, tes projets.
Mes projets, faire plein de nouvelles vidéos, ça là-dessus, pas
comment
de...
Comment t'arrives à les financer d'ailleurs ? Quand même, il et faut ben, un peu de moyens, il faut...
Eh ben, j'ai de la chance, beaucoup de marques aiment collaborer avec moi, donc j'ai des marques qui viennent me voir et qui me disent « Tiens, est-ce que tu utilises déjà nos produits ? Est-ce que tu aimerais les mettre en avant ?» Donc tout ça, forcément, ça se paye un petit
et
peu.
Et ça te gêne pas parce que tu les montres,
alors,
enfin, t'es transparent par rapport à...
J'ai aucun problème avec le placement de produits. Ouais. Étant passionné, il y a des produits que j'achète et que parfois je mets en avant que j'utilise depuis 20 ans chez moi. Donc je veux dire, je crois dans les produits que je montre, je refuse plus que je n'accepte, hein. C'est-à-dire que souvent on me propose des produits en me disant tiens tu veux parler de ça, si je connais pas ou si je trouve ça naze, je n'en parle pas, mais si c'est un produit que j'aime bien, que j'utilise déjà ou en tout cas que je trouve cool à essayer avec plaisir, aucun problème, contactez-moi.
Ah il est malin, il fait sa pub, hein, mais il a raison en même temps.
Mais non, j'ai aucun souci avec ça et c'est ça qui finance ma chaîne et les revenus aussi des vues qui font sur YouTube, qui font un financement aussi.
Alors prochain tournage en préparation.
Prochain tournage, on est en train d'aménager un très gros terrarium pour des toutes petites grenouilles, on va leur faire un paradis. Le terrarium est immense, les grenouilles sont minuscules, on va leur faire un petit bout de forêt amazonienne. Donc ça, c'est le tournage de la semaine. Je repars.
Et tu fais ça où ?
Dans mon studio, j'ai un studio en fait. J'ai un studio de tournage où j'ai pas mal d'animaux. C'est plus mon salon, ça devenait trop compliqué. Donc aujourd'hui, j'ai un studio de tournage où j'ai toutes mes installations et tout, c'est beaucoup plus simple. Et je ne dors plus là-bas, c'est beaucoup plus simple. Donc c'est beaucoup plus facile. Voilà, j'ai plein de projets, j'ai des émissions de télé qui arrivent aussi. Voilà. Des projets, j'en ai plein.
Eh bien, c'est cool.
Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. Hein. Merci de cet accueil.
Merci, Tanguy. On rappelle le titre de ton ouvrage, c'est 39 animaux faciles à élever chez toi.
Exactement.
C'est aux éditions Larousse.
Exactement.
Un livre à découvrir, passionnant, à l'image de Tanguy.
Voilà. Merci beaucoup. Tu vas me faire rougir.
J'espère, j'essaie depuis tout à l'heure.
Aussi, vous allez me faire rougir. En tout cas, merci de cet accueil. C'est la première fois que je fais une émission de radio directement sur un stand et c'est super cool.
Ah oui, là, il faut dire qu'on est installé donc, sur le stand d'Animalis, notre partenaire, au Salon International. L'agriculture.
Je peux te parler, je peux encaisser les clients en même temps et choisir les produits. C'est vraiment super agréable.
On est intégré dans le décor d'Animalis.
Ouais.
Écoute, on aura plaisir à te recevoir
dans
le studio de Sud Radio. Tu reviendras nous voir.
Mais bien
parce
sûr,
que
bien sûr.
Tu as encore
quand
plein de jolies choses
quand
à nous raconter.
Voulez.
On va marquer encore une courte pause et on se retrouve dans quelques minutes pour parler notamment de la vache béarnaise.
Super, c'est pas une vache, c'est une sauce. C'est une sauce.
Oui, mais c'est aussi une vache.
En direct du Salon de l'Agriculture.
Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente.
Sud Radio, vos animaux à l'état sauvage.
Et cette semaine, vos animaux est installé sur le stand de notre partenaire Animalis au Salon International de l'Agriculture. Alors, Salon de l'Agriculture oblige, il fallait tout de même parler aussi des animaux de ferme. C'est pour cette raison que j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Ribeaucourt, qui a écrit un ouvrage passionnant sur la vache béarnaise. Mais quelle drôle d'idée quand même, Emmanuel. Bonjour.
Bonjour.
Pourquoi la vache béarnaise ?
Alors en fait, comme vous le savez, aujourd'hui, la biodiversité domestique est assez menacée. Et il se trouve, c'est pas très connu, qu'il y a en France beaucoup de races et d'espèces d'animaux qui ont un très faible effectif et qui méritent un grand intérêt. Et donc, comme je défends cette biodiversité domestique et que j'interviens notamment à la Fondation du patrimoine, je me suis intéressé à plusieurs races de vaches. Et l'idée est venue, à l'occasion de la remise d'un prix et de rencontres, de m'intéresser à cette vache. Et c'est là, en creusant, que j'ai compris qu'elle méritait une grande attention.
Alors, cette vache béarnaise, elle est vraiment intimement liée à la vie des paysans béarnais, forcément, donc dans cet environnement pyrénéen. Vous pouvez nous expliquer un petit peu l'histoire de cette race ?
Alors, c'est effectivement une très, très ancienne race, qui était une race de montagne, qui a nourri pendant des siècles tous les paysans du Béarn et au-delà, puisqu'on l'a trouvé aussi au Pays Basque avec une autre dénomination de variété. Et il s'est trouvé qu'à partir des années 30-40, bah, il était question de spécialiser les races. Et donc, ça a été une accélération dans les années 60. Et on est passé de 300 000 têtes en 1890 à seulement 60 en 1978.
Quand vous dites spécialiser les races, c'est-à-dire avoir plutôt soit des races à viande, soit des races laitières.
Exactement.
Et donc, elle, c'est une race mixte. Hein.
C'était une race, en fait, qui avait une triple vocation. Le travail, hein, puisqu'elle assumait la grande partie du travail des paysans et en, dans les montagnes aussi. Et qu'elle produisait un peu de lait, un peu de viande, mais comme vous le dites, pas suffisamment.
Quelles sont ses particularités anatomiques, hein, physiques ? À quoi on la reconnaît, cette béarnaise ?
Alors, je crois qu'elle a beaucoup de qualités. La première caractéristique, c'est qu'elle a des cornes généralement en forme de lyre très importantes, donc qui impressionnent. Mais elle a aussi d'autres qualités, c'est qu'elle s'adapte à tout type de terrain, puisqu'elle a la particularité d'aller dans les estives l'été en montagne. Et donc, autrement, elle peut encore aujourd'hui, pour ceux qui l'ont gardée, avoir les qualités qu'elle avait autrefois pour produire des fromages et aussi un peu de viande.
C'est une vache plutôt imposante en termes de gabarit.
Alors, pas vraiment, justement. Ça a été la difficulté. C'est que comme elle ne pesait pas assez lourd, eh bien, elle n'avait pas assez de rendement pour l'abattoir, malheureusement. Et donc, c'est ce qui a causé aussi sa disparition.
Aujourd'hui, on compte combien de vaches béarnaises dans notre pays ?
Alors, il y a eu une nouvelle dynamique, puisque vous savez, l'attente sociétale des consommateurs qui veulent des produits avec une traçabilité plus importante. Ça a permis de relancer. On est passé de 250 animaux à fin 2014 à près de 500 aujourd'hui. Donc, il y a quand même une vraie dynamique autour du territoire, des éleveurs qui sont. Il y a de plus en plus de jeunes éleveurs qui s'intéressent à cette production. Et ça permet de donner un espoir pour que cette race ne disparaisse pas.
Comment arrive-t-on finalement à partir d'un effectif aussi restreint ? Vous parliez tout à l'heure d'une soixantaine d'individus à un moment donné, de l'histoire de cette race de la vache béarnaise. Comment arrive-t-on à redensifier les populations pour éviter de tomber tout simplement dans l'extinction d'une race ?
Alors, il est certain que quand il n'y a plus que 60 animaux, on est dans une phase qui est ce qu'on appelle de la conservation. Donc il y a des acteurs comme l'Institut de l'élevage, le Conservatoire des races d'Aquitaine, qui ont beaucoup travaillé pour éviter la disparition. Et aujourd'hui, ce qui sauvera ces races, et en particulier la vache béarnaise, c'est la valorisation. Donc l'intérêt, c'est d'inciter de jeunes producteurs à élever cette vache. Et surtout, ce qui la sauvera, c'est la valorisation en circuit court et la responsabilité des consommateurs qui sont pour un schéma qui permet d'aller à la ferme, de connaître l'éleveur et de lui acheter ses produits.
Il y a des événements aussi, j'imagine, qui sont créés localement pour essayer de promouvoir la vache béarnaise.
Oui, il y a pas mal d'événements, notamment cette année a été relancée une fête en vallée d'Aspe, à Aspe-Arros, qui permet d'exposer de nombreux animaux, de remontrer la vache du pays, comme disent les Béarnais. Puis c'est pour ça d'ailleurs que j'ai donné ce titre, hein, Une vache des hommes, un pays. Et donc ce sont les locaux qui redécouvrent la vache, alors des anciens qui la redécouvrent avec émotion et les jeunes qui s'y intéressent.
Le rôle de ces animaux dans les estives, c'est aussi un rôle important pour l'entretien justement du patrimoine naturel.
Alors c'est un rôle essentiel et il faut espérer que de plus en plus de vaches béarnaises reviennent dans les estives parce que, en effet.
C'est quelque chose que vous essayez de mettre en valeur d'ailleurs dans votre ouvrage, hein, tout cet aspect écologique.
Exactement, donc c'est une vache écologique et on retrouve grâce à ces animaux des espaces qui sont dégagés et c'est très bon pour la biodiversité sauvage notamment, puisque ça évite la reforestation en particulier.
L'avenir de la vache béarnaise, c'est quoi aujourd'hui, Emmanuel ?
Alors l'avenir de la vache béarnaise, déjà, c'est qu'elle soit toujours là, alors qu'elle a vraiment failli disparaître. Et ça passe, comme je vous le disais, par de nouveaux éleveurs et un schéma de production, je dirais, moderne, c'est-à-dire celui que je vous indiquais, des éleveurs qui proposent des produits sains en lien avec des consommateurs du territoire qui comprennent qu'il est important de protéger cette biodiversité domestique.
Alors, l'exemple de la vache béarnaise est un exemple parmi d'autres. Vous êtes également impliqué dans la préservation de certaines races de chiens, notamment, qui, elles aussi, sont à faible effectif.
Oui, alors effectivement, je suis président de l'association de sauvegarde du chien berger d'Auvergne, qui est une population de chiens qui existait majoritairement en Auvergne et un peu au-delà, dans les départements contigus. Et ce chien, comme ça avait été le cas pour tous les animaux de ferme, a été abandonné au profit principalement du border collie. Et donc aujourd'hui, il y a des éleveurs qui se disent on n'a plus nos chiens de pays. Et donc on essaie de maintenir ce chien qui est quand même en grande, grande difficulté.
Combien en reste-t-il à peu
Alors,
près
on le sait. Il y avait une population d'une vingtaine de chiens.
Ah oui, donc c'est très peu.
Qui est remonté tout de même à 200 chiens, mais il faut vraiment retrouver...
C'est un chien qui ressemble à quoi? Vous pouvez nous le décrire?
Alors c'est un chien qui a à peu près la taille d'un border collie.
Ouais.
Et qui peut avoir la particularité d'avoir une robe étonnante, puisqu'on pouvait les appeler les hyènes, donc... Une robe un peu bleue, bleu-noir, tachetée. Mais il y a aussi des robes unies comme le fauve, fauve charbonné ou le noir.
Et donc là, vous avez des éleveurs qui se sont investis pour essayer justement de sauver ce patrimoine naturel.
Alors c'est un patrimoine important en effet, notamment pour l'Auvergne, effectivement. Donc on a quelques éleveurs de chiens qui essaient vraiment de sauver ce chien par quelques reproductions. Et puis on essaie aussi surtout de placer les chiens dans les fermes pour qu'ils retrouvent leur vocation d'origine, qui était d'accompagner les éleveurs pour la garde des troupeaux.
Voilà, c'était important de le dire, alors que nous sommes justement installés sur le Salon international de l'agriculture, porte de Versailles. Je vous rappelle qu'il y a un hall entier qui est dédié aux animaux de compagnie. C'est le hall 7 et c'est le deuxième hall le plus visité du Salon. Emmanuel Ribeaucourt, merci infiniment. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « La Béarnaise ». Une vache, des hommes et un pays. Un magnifique ouvrage extrêmement bien documenté sur l'histoire de cette race et sa renaissance.
Merci.
On va maintenant s'intéresser aux maux des animaux en compagnie de Joël. Joël va nous donner la chair de poule aujourd'hui.
Bonjour Natacha. Alors, c'est une expression qui date du XVIIe siècle. Et je vais vous en dire quelques mots, si vous voulez bien. Alors, comment c'est tous les oiseaux, une fois déplumés, ont comme des petits boutons sur la peau hein, qui correspondent là, à l'endroit où étaient implantées les plumes. Et nous, lorsque nous avons froid, alors c'est plus technique, là, nous avons des minuscules muscles sous la peau qui se contractent, qui redressent les poils et qui dessinent de petites bosses qui la font ressembler à celle d'une poule déplumée. C'est pour ça qu'on a la chair de poule. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, nos ancêtres étaient beaucoup plus velus que nous. Et cette toison qu'ils avaient permettait d'emprisonner, à ce moment-là, quand les poils se dressaient, une bonne couche d'air isolante et qui aidait à garder
la chaleur
corporelle.
Tout à fait.
Alors, on dit aussi que ces poils dressés, à l'époque, les rendaient plus imposants lorsqu'ils avaient peur qu'ils étaient en face d'un danger.
Mais c'est comme les animaux, c'est comme
exactement.
Les chiens, par exemple, quand ils ont les poils tout droits sur le dos.
Le chat qui se hérisse.
C'est pour se rendre plus imposant.
Ouais. Alors, deux petites anecdotes à ce sujet. Les petits muscles sous la peau s'appellent muscles horripilateurs. Alors, peut-être de là l'expression « ça m'horripile », c'est-à-dire « j'en ai le poil qui se dresse tellement ça m'énerve ». Et puis aussi, autre chose, la forme la plus proche du collagène du Tyrannosaurus rex.
Oh là.
Vous savez, eh bien, qu'on a pu récupérer un petit peu de collagène, des fragments, les étudier. Bien, la forme la plus proche, c'est celle du collagène du poulet. Et donc, de là, imaginez que l'effroyable T-Rex ait eu la chair de poule.
Bravo Joël pour cette chute hors pair. Merci infiniment de nous expliquer chaque semaine les expressions animalières. Allez, petite pause et on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite.
Sud Radio, vos animaux.
Avec Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans.
En direct du Salon de l'agriculture.
Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Vos animaux sur Sud Radio, c'est votre histoire.
Vous écoutez vos animaux et nous sommes installés sur le stand de notre partenaire Animalis au Salon international de l'agriculture. Ça se situe Hall 7. Et justement, je reçois ce matin notre autre Jean-Philippe Darnaud. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Natacha.
Vous êtes le PDG d'Animalis et vous êtes accompagné de Julien qui est aussi un intervenant Animalis. Pour nous expliquer un petit peu les nouvelles tendances de ce marché de l'animal de compagnie, c'est un marché qui fonctionne bien.
Alors, c'est un marché qui fonctionne bien, pas forcément pour tous les animaux.
Oui.
Au jour d'aujourd'hui, la star de tous les animaux, c'est le chat.
Oui, le chat est devenu l'animal préféré des Français, a largement détrôné le chien. Il y a presque deux fois plus de chats que de chiens en France.
Exactement, l'espace d'une quinzaine d'années, on est passé de 10 ou 12 millions de chiens à 7 millions, et on est passé de 7 ou 8 millions de chats à 14 millions. Voilà. Donc le chat, pour tout un tas de raisons.
Ouais.
Et donc automatiquement, beaucoup de créations, d'innovations, de nouveaux produits sont à destination de ce roi des animaux qui est le chat.
Le produit numéro un concernant le chat, j'imagine que c'est la litière, produit essentiel.
Absolument. C'est la litière, donc beaucoup, beaucoup d'évolutions de litière au cours des dernières années. C'est un produit basique. Aujourd'hui, il y a tout un tas de types de litières différentes avec des parfums, enfin tout un tas de propriétés. Bien sûr, la litière et puis surtout l'alimentation. L'alimentation, même si le chat peut se nourrir de beaucoup de choses... on a beaucoup travaillé sur l'alimentation. Et puis le chat est un animal un petit peu fragile quand même, donc beaucoup de produits également liés pour sa santé, donc des produits vétérinaires ou avec un peu d'ingrédients.
En ce qui concerne l'alimentation, vous avez développé une gamme de produits spécifiques très haut de gamme qui sont des produits conçus par un chef, n'ayons pas peur des mots, pour essayer de ravir les papilles gustatives de nos amis félins.
Oui, et canins d'ailleurs, et canins. Mais c'est très amusant, parce qu'en l'espace d'une trentaine d'années, on est parti de quelques références pour les animaux, et maintenant à des milliers de références différentes. La très très grande tendance depuis une dizaine d'années, ce sont les produits naturels, donc vraiment bien mieux adaptés.
À tout point de vue, produits naturels concernant l'alimentation, produits naturels concernant aussi l'entretien des animaux, notamment les litières. On est en quête vraiment de naturel.
Oui, tout à fait. On va bientôt... avec tout un tas de particularités, je ne suis pas un expert nutritionniste, mais nos amis vétérinaires qui nous accompagnent sont des experts nutritionnistes. Donc effectivement, les animaux vivent beaucoup plus longtemps grâce à l'alimentation, principalement. On va vers de plus en plus de produits incluant des produits frais, des produits bio. Nos prochaines gammes seront bio. Et puis, ce que vous disiez, c'est assez juste. On va un peu plus loin. Je ne peux pas citer ni des marques ni des chefs, mais un très grand chef qui a 3 étoiles, c'est dans son laboratoire que nous réalisons nos terrines, nos verrines, nos sablés. Voilà, donc c'est
pour animaux.
On n'est pas dans le luxe, on est dans le vrai plaisir. On est dans le vrai plaisir. Et ces produits-là sont vraiment très compliqués à réaliser. Il y a un contrôle d'ailleurs qui est probablement, je ne devrais pas trop le dire, mais c'est la réalité, les contrôles sont supérieurs à l'alimentation humaine.
Voilà. Tiens donc.
Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est partager l'alimentation de nos animaux, et on va en prendre un peu tout à l'heure des sablés.
Écoutez, je ne suis pas certaine, moi je suis plutôt encore à l'heure du café pour l'instant, Jean-Philippe Darnaud. J'aimerais qu'on revienne sur cette tendance du naturel. On sent qu'il y a un engouement pour tous les produits naturels, le bio, pour nous êtres humains, et donc forcément ça se répercute sur nos animaux de compagnie. Pour vous, quelle est la place aujourd'hui de ces produits naturels en rayon, et quels sont ceux qui prennent vraiment de plus en plus de place ?
Alors, beaucoup, beaucoup de produits de niche, encore en France. On est souvent un petit peu en retard sur les évolutions. Et puis après, on rattrape très vite. C'est assez typiquement
en
français.
En retard par rapport à des pays anglo-saxons,
oui,
par exemple.
Oui, tout à fait. Oui. Le naturel aux États-Unis, c'est 74% de la consommation. En France, on doit être autour de 7%. Donc vous voyez, le chemin est encore long parce qu'on y est arrivé beaucoup plus tardivement, lié au fait surtout que nous avons introduit il y a un certain nombre d'années des produits déjà premium et super premium. Donc le temps de passer à des produits dits plus naturels prend un certain temps. Ce sont en fait toutes les contraintes liées à la distribution de ces produits. Alors après, on va avoir des tas de produits de niche avec à base d'insectes, pour d'oligo-éléments.
Oui, alors ça, justement, beaucoup se développe quand même. C'est assez surprenant, ces aliments à base d'insectes. Ce sont des sources de protéines, évidemment.
Ce sont des sources de protéines. On y inclut un peu d'autres ingrédients, avec un peu de banane. Ce qui donne des produits plutôt sympathiques, plutôt sous forme de récompense. Moi, je m'en octroie assez régulièrement de ces récompenses. J'aime beaucoup les produits à base d'insectes. Je trouve ça formidable.
Julien, vous qui êtes donc un acteur d'animalisme, vous travaillez au contact des clients. Comment percevez-vous les nouvelles attentes des propriétaires d'animaux ?
Les propriétaires d'animaux, en fait, de plus en plus vont faire attention à leurs animaux, justement, à ce qu'ils mangent. Ils vont beaucoup regarder, en fait, la composition. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils se tournent vers des aliments beaucoup plus naturels, des produits à base de viande fraîche, des produits sans colorants.
Et les gens prennent le temps aujourd'hui de lire les compositions sur les notices. Ils ne vont pas directement à l'acte d'achat. Ils se renseignent d'abord.
Ils se renseignent d'abord parce que je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui le font pour eux-mêmes. Et donc forcément, ils vont également le faire pour leur animal. Donc oui, on voit régulièrement des clients dans les rayons qui sont parfois un peu perdus. C'est pour ça qu'on va les renseigner.
Oui, parce que les références sont énormes. Il y a énormément de marques et au sein des marques de gammes de produits qui sont proposées. Il y en a pour tout le monde.
Exactement. Il y en a pour tout le monde, toutes les tailles de chiens, toutes les tailles de chats.
Est-ce que c'est
pas
un peu trop, finalement, d'autant segmenter ce marché ?
Alors, on va vraiment vers la personnalisation totale. Demain, nous nourrirons votre chien ou votre chat avec des recettes spécifiques pour lui, en fonction de sa nature.
C'est comme ça que vous percevez l'évolution
Absolument.
Du marché.
D'ici quelques années, nous serons dans la personnalisation totale et on vous livrera chez vous, tous les jours, l'alimentation qui va correspondre.
Oui.
C'est les orientations. Et ça existe déjà aux États-Unis. Hein, donc, c'est tout à fait juste. Et en fait, on voit beaucoup de... Nous testons beaucoup de produits. La principale préoccupation, c'est la matière première. Donc on voit beaucoup de produits canadiens, je ne cite pas de marque, mais c'est un peu logique parce qu'ils ont, donc de la viande fraîche à base et du bison. On trouve ça en Ukraine aussi. Hein. Donc, on va vers des sources d'approvisionnement là où il y a de la matière première. Et ensuite de ça, effectivement, on adapte des nouveaux procédés d'ailleurs de fabrication. Mais on va vers la personnalisation totale. Oui, totale.
Julien, donc en magasin, vous sentez donc cette demande de personnalisation de la part de vos clients pour leurs animaux, toutous, minous et autres.
Oui, tout à fait, parce que bon, bah, y a toutes sortes de chiens, mais bon, deux labradors ne se ressemblent pas forcément. Il y en a un qui peut avoir besoin de perdre un peu de poids, un autre qui peut être malade. Donc oui, les clients veulent vraiment ce qui corresponde à leur animal et pas seulement forcément à leur taille de chien maintenant.
Et finalement, ils sont prêts à payer un petit peu plus cher ce service très premium.
Ah oui. Bah, y a beaucoup de personnes en fait qui lésignent pas sur la qualité pour la santé de leur animal. Et puis, bah, comme le disait tout à l'heure Jean-Philippe, en plus, un animal bien nourri, un animal qui mange bien, c'est un animal qui vit mieux et qui vivra plus longtemps.
Alors, l'accompagnement de vos clients par rapport à la nutrition, on comprend bien, c'est un point clé, hein, parce que ça doit être certainement le premier poste d'achat quand on est propriétaire d'animal de compagnie. Et puis derrière, on développe aussi beaucoup de choses pour les distraire, ces animaux. Jean-Philippe Darnaud.
On est à la radio, vous voyez donc pas ce qu'il y a derrière moi, mais j'adore absolument.
Bon, on peut pas tout vous dire, mais moi je vous conseille de venir dans le hall 7 sur le stand d'Animalis pour découvrir un partenariat tout à fait unique au monde. Hein,
on est très très fiers. C'est 2 ans de travail. Venez dans les magasins, vous les découvrirez.
Et une grande marque, on va dire, de divertissement. Oui. Un film qui va sortir bientôt au cinéma. Voilà, on avance un petit peu sur le produit. Ça veut dire que nos animaux de compagnie, finalement, ont les mêmes plaisirs que nous. On les traite comme des membres de la famille entière. Et on veut qu'ils s'éclatent eux aussi.
Oui, absolument. Absolument. Et c'est formidable. Hein. Voilà, les animaux sont très heureux et nous, on est très heureux, comme dit Julien. Donc, c'est le meilleur des mondes. Mais oui, bien sûr, les produits, les jouets, il y a beaucoup de travail qui est réalisé là-dessus. Alors, bien sûr, les jouets dont on parle là, c'est un clin d'œil. Mais il y a beaucoup de produits, on parlait tout à l'heure. Les cosmétiques pour les animaux, c'est une évidence aussi. Chaque race, mais à l'intérieur de chaque race, un animal n'est pas le même, que ce soit chat ou chien, donc pour son pelage, etc. Donc on va vraiment vers à nouveau de la personnalisation totale, y compris sur les produits de soins. Voilà.
Eh bien écoutez, merci de nous avoir fait partager ces tendances du secteur animalier et puis venez découvrir le stand d'Animalis, il est situé dans le hall 7 du Salon International de l'Agriculture, hall entièrement dédié aux chiens et aux chats. Beaucoup d'ailleurs d'animaux sont présents ici sur ce salon avec des concours de races. Voilà, c'est la fin de vos animaux. Nous, on aura le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Toujours en compagnie de Gaspard et on aura retrouvé les studios de Sud Radio. Je vous embrasse, passez un excellent week-end. Ciao à tous.
Sud Radio, vos animaux.
Avec Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com.